Donc, simplement pour attirer l'attention de ce.
Il a été dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une association. Ce n'est pas vraiment une association, si j'ai bien compris. Il s'agit bien d'une société à venir. Et on achète des titres de société. On achète des titres de
transaction. Alors, c'est quoi? C'est une coopérative. C'est noté en coopérative.
La détermination juridique, c'est bien celle d'une sorte de société.
Oui, mais le principe, c'est la coopérative.
D'accord. D'accord. Donc ça veut dire quand même qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cette entité, de cette société anonyme. Ça veut dire que si elle est amenée à faire de mauvaises affaires, que ce qu'on aurait amené à pouvoir garantir ça, une clause garantie de l'actionnaire. Tout à fait légitimement, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait ça. Mais ça veut dire que la différence que je fais, me semble-t-il, avec un prêt classique, dans un prêt classique, on ne devient pas actionnaire de la banque. On reste à l'extérieur. La banque va vivre sa vie, et si elle fait des mauvaises affaires, ça n'aura pas d'impact sur le contractant du prêt. Ici, on est bien d'accord qu'il y a le prêt, bien sûr, le remboursement du prêt, mais qu'on est également engagé vis-à-vis des autres co-actionnaires, et on a une garantie par rapport à ça. C'est tout. Ce qui explique d'ailleurs la différence des taux. On n'est pas tout à fait dans le même produit, parce qu'on a une garantie, à apporter supérieure à celle de nous. Voilà, c'est parce que ça me semblait vous l'avez. Il faut bien avoir conscience de ça par rapport à ça. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le cadre d'un crédit classique, où là, on assure quand même un risque, le risque lié au fonctionnement de la société anonyme, qui peut être sous forme de coopérative.
Ce qui est important, effectivement, c'est qu'on a des taux bas, on n'a pas de frais annexes. Et si on regarde sur le site internet, on voit aussi que l'AFL a également une garantie avec le Grosse Banque. Je ne me souviens plus du nom, mais.
Oui,
donc ils ont également. Ils sont également associés avec une banque pour garantir leur solvabilité.
J'ai vu qu'il y a un contrôle de compte.
Voilà.
Ça me paraît assez sérieux.
Voilà.
Je mets ça simplement quand même que par rapport à un prêt classique, on n'est pas dans le même, tout à fait dans le même produit. On engage notre responsabilité financière, même si celle-ci est limitée. Ce qui explique la différence.
De toute façon, si les communes comme Paris ou des groupements importants passent par cette agence, c'est que derrière, il y a des garanties qui sont assez importantes aussi.
Oui, ils sont là.
En contrepartie, effectivement, on a des taux qui sont très bas, on a des frais qui sont réduits, et puis on a une adhésion unique, voilà, quel que soit le nom et le montant que l'on
voilà, sachant qu'au niveau de gouvernance, comme Nadine l'a dit tout à l'heure, il y a des grosses métropoles, des grosses enchaînes, on devrait diluer dans ça, mais bon, c'est inhérent, quoi, que ce soit à la taille de notre commune.
Oui, mais un peu comme toutes les sociétés qui peuvent exister, que ce soit la REP, etc. On a 0,004%
des
départs,
donc
avec ça, on peut faire
grand-chose. Non, mais j'insistais sur... Enfin, bien comprendre bien qu'il s'agit de pas un même produit qu'un prêt bancaire qu'on peut prendre à la caisse d'épargne, etc. Donc, c'est vraiment, on a un engagement supérieur par rapport à ça, qui est peut-être limité, et qui semble effectivement très limité.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a un monsieur...
Non, c'est bon, je crois que j'ai le micro. Est-ce que la municipalité est censée donner des cours de comptabilité et de finances? Parce qu'il y a des registres, il y a des documents pour ça, et on n'est pas obligé systématiquement de donner des explications à des choses qui sont censées être connues. Il y a des registres à cet effet, on ne va pas passer encore un quart d'heure à chaque fois pour répondre à des questions que vous êtes censé regarder de votre côté.
Oui,
est-ce que la municipalité est censée donner des cours de comptabilité ou de finances? Non,
pas du tout, mais par contre, l'explication est intéressante parce qu'effectivement, il y a des questions qui peuvent se poser, qui peuvent se faire jouer.
Tout à fait.
Donc, on donne des explications un petit peu techniques sur cette agence. C'était le but, en fait. Une question,
sinon il y avait que ça.
Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Non, c'est bon. Donc, on va passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre cette adhésion à l'agence France Locale? Abstentions. Alors, vous êtes bien là, c'est toujours pas. Donc il y a 3 abstentions, plus la procuration de M. Tissot, 4 abstentions.
Merci. Alors, le point suivant, il s'agit... Ah, madame Hubert, vous avez procuration, pardon, ça fait 5. Tant pis. Donc 5, abstention, 0 contre, et le reste. C'est bon ? Okay. Alors le point suivant, c'est le point numéro 05 qui concerne l'indemnité pour le jardinage de l'église communale. Donc ça, c'est un point qu'on retrouve chaque année, qui est représenté, donc qui est encadré par le circulaire qui nous est produit par l'église ici. Pour la préfecture. Vous avez l'explication. Le point d'analyse des fonctionnaires, circulaire du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011. Pour préciser que le montant maximum de l'indemnité allouée aux proposés chargés du jardinage des églises communales pour faire l'objet d'une revalorisation annuelle, au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. Le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé depuis la dernière circulaire en date du 7 février 2020, le plafond indemnitaire applicable pour le dernier âge des églises communales reste équivalent en 2021, donc à part de changement. Il est ainsi fixé à 479,86 € pour un gardien résident dans la commune, ce qui est le cas chez nous, où se trouve le déficit de culte, et à 120,87 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l'église à des périodes rapprochées. Les conseillers municipaux peuvent revaloriser ces indemnités dans la limite de ces plafonds. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça. Pas de questions. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le point 06, concernant une demande de subvention exceptionnelle au Centre National du Livre. Sylvie, je te laisse la parole.
Dans le cadre de son plan France Relance, le gouvernement a prévu cette possibilité de subvention exceptionnelle à l'intention des bibliothèques et des collectivités territoriales, ainsi que des librairies, puisque ces acteurs, les sociétés de la culture, ont pris la crise sanitaire de plein fouet. Donc, pour les soutenir financièrement dans l'achat de livres primés et dans la reconstitution de leurs fonds, ce dispositif vient d'être ouvert en avril et prévoit un investissement pour l'année 2021 de 5 millions d'euros et le même investissement, toujours autant de 5 millions d'euros, pour l'année 2022. La municipalité de Roc correspond tout à fait aux critères d'éligibilité qui sont exposés dans les annexes et répond ainsi aux conditions requises. Donc, elle pourrait prétendre à une subvention de montant de 2 400 €, puisque le montant de crédit alloué à l'acquisition de livres pour l'année 2021 est de 1 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'en délibérer et autoriser ainsi M. le maire à signer tous les documents.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous avez le tableau qui nous explique le montant de dette de subvention que l'on peut obtenir. Je pense que c'est relativement clair. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette demande de subvention ? Des abstentions ? À l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Alors, on passe au point suivant. Donc, c'est le point concernant le personnel. Donc le point 07, approbation de la mise à disposition du personnel communal au CCAS. Je vais laisser la parole à Christian. Et c'est un point, entre guillemets, qui est un point plus de régularisation. Ce sont des éléments qu'on a déjà passés et Christian va vous l'expliquer.
Alors c'est à la demande du comptable public que la mise à disposition du personnel communal au CCAS apparaît sous la forme d'une convention à partir de 2021. Ceci concerne 3 postes, donc le poste d'assistant socio-éducatif, le poste d'adjoint administratif et un poste d'adjoint technique qui correspond en fait au chauffeur de la navette senior. Il dessert les marchés, les centres commerciaux et l'acheminement des seniors aux activités seniors hebdomadaires. vers le club Bon Accueil. Donc apparaît la répartition de pourcentage du temps de travail qui est alloué à ces postes pour le CCAS. Et en fait, il y a une évolution par rapport aux années précédentes, puisqu'en 2020, il y a eu la création du poste d'adjoint administratif. Et à partir de février 2020, la stagiarisation de cet agent, puis la titularisation en janvier 2021. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que sur lors du DOB et le vote du budget, ces trois postes apparaissent à la ligne charge de personnel avec pour une somme de 39 000 euros qui est consacrée à ces charges de personnel.
Très bien.
Vous avez des questions?
Merci, Christiane. Oui, des questions peut-être? On est aussi censé, mais tu l'as dit, on régularise aussi des choses qui nous sont demandées. Je vous le répète à chaque fois, mais la trésorerie ne nous lâche pas. Elle est très fatiguante en ce moment. Donc on régularise un petit peu tout et on passe des conventions, donc il faut que tout soit carré. Donc cet élément-là, ça a été passé en CCAS, ça a été passé en CD et ça passe en conseil municipal. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. C'est parfait, merci. Le point suivant, le point 08, donc suppression des postes. Donc ça aussi, c'est une délibération qui passe régulièrement au sein du conseil municipal. Donc c'est quelque chose qui a déjà été présenté en conseil technique. Donc c'est la suppression des postes qui avaient été ouverts et qui sont là maintenant, qui sont vacants, qu'il faut refermer. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, vous avez la liste des postes, vous n'avez pas les noms, puisque les noms n'apparaissent pas, vous avez la liste de tous les postes. Petite précision, tous ces postes-là ont été ou pourvus ou redistribués. Je pense que la question va être posée, mais voilà, ce n'est pas des suppressions de postes pur et dur. Est-ce que vous avez des questions? Ça a été adopté en conseil en CT, en formation, pour ceux qui étaient présents. Pas de questions, on passe au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point suivant. Il s'agit de la modification du plafond du RIFSET. Alors, vous avez une explication concernant ce RIFSET, l'origine indemnitaire, donc, qui concerne notamment les catégories A. Donc, la proposition qui vous est faite dans cette délibération, c'est de modifier et de séparer en fait la première partie du tableau, donc, qui concerne la direction générale et les directeurs de pôle. Il s'agit pour nous de pouvoir notamment pouvoir rémunérer à sa juste valeur notre nouvelle DGS, puisqu'on avait un souci de pouvoir la reprendre sur le montant d'indemnité précédente qui avait été mis en place pour notre précédente DGS. Bon. Après modification en fait, du groupe de fonctions, c'est ce qui vous est proposé. Ça nous permet effectivement de pallier à cette modification et de pouvoir avoir une rémunération qui soit quasiment la même, puisque de toute façon, ce changement n'a pas d'impact budgétaire, ça c'est la première chose. Et en plus, je dirais même qu'on fait une économie quasiment 10% par rapport à la rémunération précédente de notre ancienne DGS. Alors je ne devrais pas le dire parce qu'elle est là, voilà. Mais c'est la vérité, je ne cache rien, tout est clair. Donc voilà, c'est pour faire un rattrapage en fait, pour pouvoir rémunérer à sa juste valeur notre nouvelle DGS. Donc c'était la présentation. Ça devait donc passer par cette modification de ce groupe A, qui est la catégorie A. Alors à la fois sur la partie fixe, hein, sur la partie, comme vous expliquez, indemnité de fonction et de suggestion, donc IFSE, et à la fois sur la partie variable, donc le CIA. Donc il faut absolument modifier ces deux parties. sais pas si j'ai été clair, si vous avez des questions par rapport à ça.
J'ai une question, mais pas liée tout à fait avec ça. Pourquoi cette modification n'a-t-elle pas été traitée lors du CT de... Pourquoi cette modification n'a-t-elle pas été abordée lors du CT du 22 avril?
Parce qu'il n'y avait pas nécessité d'aborder lors du CT. C'est juste une modification.
Ça relève du personnel, en fait. Donc c'est pour ça que c'est juste...
C'est pour ça. Il n'y a pas lieu de modifier, il n'y a pas lieu de passer en CT.
OK.
D'autres questions, d'autres remarques? Alors, on va passer le vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre cette modification? Des abstentions? À l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, point suivant. Point numéro 10. Augmentation du temps de travail hebdomadaire d'un adjoint technique. Alors, par contre, ce point-là a été passé en CP. Puisqu'il s'agissait de modifier une durée de travail d'un de nos agents qui était à 23 heures hebdomadaires et qui allait passer à 25 heures suite au réaménagement qu'on a pu avoir dans les écoles et notamment à, si je ne me trompe pas, les missions qui ont été rajoutées à notre service d'entretien, par rapport à des missions qui ont été retirées aux ATSEM. Alors on leur a retiré en fait des missions d'entretien et c'est le service d'entretien qui a récupéré ces missions. On a juste fait une petite passation entre les deux. Voilà. Donc ça a été passé en comité paritaire le 22 avril et il vous est demandé de voter cette augmentation. Donc si vous avez des questions. Pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. À l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit du point concernant l'intercommunalité. Alors, ce point-là, donc, opposition transfert au 1er juillet 2021 de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale au bulletin et l'eau. C'est un point qui avait été déjà présenté l'année dernière et qui devait faire l'objet d'une délibération avant le 1er janvier 2021. Ce point-là avait été repoussé, donc on avait jusqu'au 1er juillet 2021 pour se prononcer dessus. Donc vous avez toute la note explicative. Alors je vais vous laisser plutôt poser des questions concernant ce point-là si vous en avez. Le principe, c'est que... D'ailleurs, je vous précise, parce que c'est précisé dans la note, le conseil communautaire du Muretin et de l'eau avait déjà délibéré sur ce point précis et ne voulait pas acquérir cette compétence qui lui revenait de droit à partir du 1er janvier 2021, qui était dépassée donc maintenant à la date du 1er juillet 2021. Donc en fait, le Muretin ne voulant pas récupérer cette compétence, il fallait aussi que chaque commune délibère dans ce cadre-là. Je ne pense pas me tromper, mais dans les dernières réunions des conférences des maires, je pense que les 26 communes ont délibéré contre ce projet. Enfin, pour être clair, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je crois. D'autant plus que nous, on est en pleine révision de notre PMU, donc ça nous intéresse grandement là-dessus. Donc on conserve le mandat là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant. Après, quand on regarde les intercos qui sont à côté de nous, notamment la métropole, on voit bien que même s'il y a des choses qui sont mises en place, c'est pas toujours la meilleure, voilà, c'est pas toujours gagné, c'est pas toujours la meilleure chose, parce qu'on se retrouve vite confronté à des problématiques devant les tribunaux, et c'est ce qui se passe auprès de la métropole. Nous, pour l'instant, chaque commune garderait la main sur son propre PLU, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, des remarques. Donc on va délibérer tous ensemble, les 26 communes vont délibérer contre cette reprise de cette compétence par le LAGO. Pas de questions, pas de remarques? Non. C'est moi. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Abstention ? Non, à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, le point suivant, c'est le point 12, concernant des modifications statutaires. Alors, on a plusieurs choses qui vont être. Enfin, on a deux points qui concernent les modifications statutaires, concernant le SAGE et concernant la REC. Donc, le premier concernant le SAGE. Le SAGE, c'est notre syndicat qui s'occupe de l'eau. Il se trouve. Oui, eau et assainissement, c'est sur la partie assainissement. Il se trouve que la commune de Cugnot a décidé de se retirer de ce syndicat, donc, du fait que ça modifie. Il faut modifier les statuts, il faut modifier la représentativité au sein du CIVOM. Donc il est demandé à toutes les collectivités de délibérer tout simplement pour se remettre en conformité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Vous avez une explication donc, sur le nombre de délégués, le nombre de personnes qui sont représentées et représentantes? Oui. Oui, c'est ça, ils veulent rejoindre le métropole. Ils ont trouvé plus d'intérêt à rejoindre le métropole. Mais au fond, officiellement, enfin, moi, je n'ai pas l'explication réelle technique. Hein, pas d'explication réelle technique. Hein, chacun est libre, entre guillemets, d'adhérer ou pas aux compétences. Donc, ils ont jugé que c'était une personne pour eux de repartir sur le métropole. Ou de partir sur le métropole. D'autres questions? Alors, on passe au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Abstentions. Donc à l'unanimité, je vous remercie. La suivante, donc modification statutaire concernant cette fois-ci l'AREC. Là, c'est un changement d'actionnaire. Donc l'AREC, je ne vais pas dire tous les mois, mais quasiment tous les mois, incorpore de nouvelles collectivités dans ses actionnaires. Donc ça veut dire que quasiment tout le temps, il y a une modification des statuts qui se fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous on est représentés, je crois que c'est 7, on a 7 actions, il me semble, dans la REC. Donc on a 0,0004% des actions. Voilà. Mais à chaque fois que l'on veut rentrer dans cette SPL de la REC, et bien chaque collectivité doit racheter une action. Soit elle la rachète directement auprès de la SPL, soit elle la rachète auprès d'une collectivité, ou elle se fait prêter. Je crois d'ailleurs que nous, quand on était rentrés dans la SPL, il me semble qu'on nous a été prêtés. Traiter des actions, qu'il ait fait de régulariser ensuite. Voilà. Donc c'est le principe de l'ESPL. Oui, la REC, effectivement, j'utilise le chronique, la REC, c'est l'Agence régionale de l'énergie et du climat. Donc c'est une émanation de la région, au même titre que la REC. Donc l'une s'occupe des projets liés à l'énergie, plutôt, et l'autre s'occupe plutôt d'un projet structurant, type bâtiment, type d'aménagement particulier. Ce sont des émanations. Des SPL, des sociétés publiques qui sont des émanations de la région, qui permettent de faire de mettre en place des études et puis de suivre les collectivités dans ces études et dans leurs projets. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point 14 et le point 15, il s'agit du SNEC. Le SNEC, c'est notre syndicat d'électricité. Donc, c'est la suite de ce que nous avions présenté il n'y a pas très longtemps, suite au diagnostic qui avait été fait sur la commune concernant l'éclairage public. Nous avons demandé au SNEC de mettre en place une série d'actions pour pouvoir se remettre à niveau, notamment sur les armoires de commandes. Je vous avais expliqué, on avait 11 armoires de commandes sur 52 qui étaient obsolètes, il fallait absolument les changer. Et on avait également 52 points lumineux, alors pas 52, c'est plus qu'on en avait, mais on va en avoir 52 points lumineux avec ces fameuses bulles, ces bulles blanches hein, qu'il faut changer, qui sont à proscrire, parce qu'on les éclaire en bas, on éclaire plutôt vers le ciel. Donc ça n'a pas trop d'intérêt, et en plus on a une consommation qui est énorme. Voilà. Le principe, c'était d'inscrire ces éléments-là auprès du SNEG. Ça a été fait. Donc, ces travaux-là vont être lancés très rapidement, puisqu'avant la fin de l'année, normalement, ces travaux seront déjà engagés. Voilà. Ils ont été inscrits au moins dans la démarche du SNEG. lègue sur chaque opération est de l'ordre de 80%, donc la commune, le reste à charge pour la commune est de 20%. Donc c'est plutôt intéressant. Donc le premier point, ça concerne les armoires, les 11 armoires de commande en tête de vétusté. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, pas de questions, on va voter les uns des autres. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité. Et donc le point suivant, ça concerne toujours le SDEG, les 52 points lumineux. Donc c'est la même chose avec un reste à charge de 27 151 euros pour un total de 134 063 euros. Je ne vous ai pas précisé, mais vous l'avez dans la note, ça passera forcément par un emprunt. Je n'ai pas reparlé au financier. Un emprunt sur une durée de 12 ans avec un taux de 2,5%, c'est aussi intéressant puisque en fait on a aussi des taux qui sont quand même très très bas. On a une participation de 20% et en plus on fait, je ne vais pas dire un cadeau, mais sur des taux qui sont relativement bas et sur des durées de 12 ans. Je te laisse la parole.
Oui, les 2,5% c'est un taux estimé aujourd'hui, mais une fois que l'emprunt va être contractualisé, on aura le taux réel qui sera indiqué. Donc là, c'est un taux, disons, plutôt aussi bon.
Après, il ne sera pas de 5%. C'est une léger delta. Effectivement. On a une estimation au départ. Comme d'ailleurs, on a toujours une estimation dans le diagnostic qui vous avait été fait, ce n'était que des estimations au départ. Après, il y a une réactualisation qui se fait sur le terrain quand effectivement il y a des éléments à revoir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces points lumineux ? Pas de questions ? On passe au vote. Est-ce que vous avez votre compte ? Des abstentions ? À l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point suivant sur la partie scolaire. Alors, nous arrivons à la modification de la carte scolaire. Donc, suite à ce que vous avez déjà expliqué sur la mise en place de notre nouveau projet de nouvelle école, il avait fallu, et c'est ce qu'on a fait, prendre. On va revenir sur le débat qu'on a pu avoir, sur les débats qu'on a pu avoir ici. Il a donc fallu prendre position auprès des instances qui s'occupent de notre transport scolaire, donc ça a été fait, donc les bus de plus qui nous permettront de rabattre nos élèves sont en place, nous ont été confirmés par le conseil départemental, donc avec ça, derrière, on peut avoir une modification de la carte scolaire. Cette modification de carte scolaire, on la passe absolument maintenant, puisque les inscriptions scolaires sont en train de tomber les unes après les autres, et il va falloir que maintenant, définitivement, on affecte les nouveaux enfants à la nouvelle école. Alors vous avez eu normalement dans les annexes, vous avez toutes les rues qui sont concernées. Je parle, mais en fait je vais laisser Dominique vous l'expliquer. Donc je vais laisser la parole pour continuer.
Donc je vais un petit peu répéter ce qu'on a déjà parlé. C'est la nouvelle carte scolaire qui a été établie pour définir les affectations selon les situations géographiques des familles. Donc ça, je pense que ça avait été abordé aussi, mais je le rappelle. Nous avons défini une zone tampon pour apporter davantage de souplesse dans la gestion des effectifs, puisque vous savez, enfin, vous devez être informé que quant à ce dont on avait discuté la dernière fois au dernier conseil, déborder un petit peu au niveau de l'effectif et si on se projette sur les années qui arrivent, ce sera un petit peu plus compliqué pour les deux écoles. Voilà. Donc ça doit permettre donc, de diriger les élèves de cette zone tampon, soit sur Canta, soit sur Yvette Reynaud, selon les possibilités, pour essayer d'éviter l'engorgement d'une ou de l'autre école. Voilà, en gros, c'est l'explication que je peux vous donner. Donc, si je peux vous donner des échéances, dès 2022, l'accueil sur Yvette Reynaud sera privilégié. Et à partir de septembre 2023, donc c'est un petit peu l'échéance qu'on s'est donnée pour la construction de la nouvelle école et son, sur l'utilisation réelle. Donc dès septembre 2023, Quanta n'accueillera plus que les Roquois qui pourront terminer leur cycle sur cette école. C'est-à-dire que les enfants, on ne peut pas couper un élève au milieu d'un cycle, ils devront terminer leur cycle. Alors quand je parle de cycle, pour ceux qui ne connaissent pas, on a le cycle 1 pour la maternelle, le cycle 2 correspond au CP, CE1 et CE2, et le cycle 3 correspond au CM1, CM2 et 6e. Voilà, donc actuellement, nous avons, ce que M. le maire vient d'aborder un petit peu aussi, des demandes de dérogation, donc qui vont être consultées dans les prochains jours, et validées ou non par M. le maire. Je rappelle que la dérogation permet à un enfant d'être admis dans une école qui n'est pas celle de son lieu d'habitation. Voilà. Et ensuite, il y a aussi le principe de regroupement des fratries qui va s'appliquer jusqu'à la fin des cycles que je vous ai énoncés tout à l'heure. Voilà.
Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Hubert.